Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, vous remercier de ces moments exquis que vous me permettez d'avoir sur l'histoire de la Martinique. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous essayons de faire une émission, nous essayons de la préparer dans une certaine mesure, hein, pour nous donner des repères. Mais chaque fois, vous nous donnez cette possibilité qui est extraordinaire de découvrir des événements exceptionnels. Et je voudrais vous remercier pour ces moments, je répète, exquis que vous nous faites passer à votre bureau, parce qu'en plus, nous enregistrons avec un micro, mais les auditeurs ne peuvent pas imaginer le nombre de documents que vous avez gardés, que vous avez là sur toute cette époque sur laquelle nous allons parler, qui est celle de février 1974. Une fois de plus, merci, merci beaucoup, Édouard de Lépine, de nous faire vivre ces moments-là.
C'est rien, c'est tout à fait normal. C'est mon boulot. Bon, je crois que c'est une date importante, l'une des dates importantes de l'histoire du mouvement ouvrier martiniquais. Oh, peut-être pas aussi importante que 1900 ou 1935, mais enfin, c'est une date extrêmement importante quand même, malgré tout. Parce que c'est vrai, c'est la fin d'une longue période, 1935-1974, au cours de laquelle l'histoire du mouvement ouvrier est dominée par les communistes. Et 1974, ça marque l'intervention de forces extérieures au Parti communiste, c'est-à-dire, bon, une force, bon, dont les positions ne sont pas toujours très claires, c'est vrai, mais c'est ce que va former plus tard l'extrême gauche, ou l'ultra-gauche, enfin, moi, ce que j'appelle l'ultra-gauche, nationaliste, aussi bien l'ultra-gauche national-populiste, c'est-à-dire ce que j'appelle les maoïstes. Qui s'appelle marxiste-léniniste, que j'appelle les maos locaux. Bon, tous ces mouvements vont jouer un rôle décisif à partir de 1976-77, notamment la création de la CSTM, c'est le syndicat. Aujourd'hui, probablement peut-être l'un des plus puissants de la Martinique, la CSTM, la CDMT, qui est aussi un syndicat puissant. Le reste, bon, c'est vrai que la CGT demeure un syndicat extrêmement important, mais enfin, la CGT n'exerce pas l'espèce d'hégémonie qu'elle a exercée entre 1937 et 1974, 72, 73.
Alors, ce qui est aussi important à noter pour ceux qui nous écoutent en ce moment, pour expliquer pourquoi aujourd'hui nous faisons cette émission, c'est aussi parce que vous m'avez interpellé, m'avez dit, mais février 74, je considère qu'on n'en a pas assez parlé ou suffisamment discuté, et allons essayer de se rencontrer pour échanger dessus. En fait, on était d'abord venu pour échanger sur cette question-là. Et puis, je me rends compte en réalité que, avec toutes les explications que vous avez données, cette date est une date fondamentale dans notre histoire, parce que c'est, disons, février 1974, c'est vraiment le moment où s'est articulé, où s'est démultiplié les différents partis de gauche de la Martinique. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cet événement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que jusqu'en 1974, le mouvement pour l'égalité des droits, le mouvement pour les salaires, le mouvement pour la représentation des travailleurs, pour le mouvement des vieux travailleurs, la retraite des vieux, le chômage, etc. Jusqu'à 1974, disons, c'est dans un cadre assimilationniste, je veux dire essentiellement assimilationniste. C'est-à-dire les gens ne veulent pas simplement l'égalité des droits, ils veulent être considérés comme des Français. Ils veulent être... À partir de 1974, je me sens que c'est là la différence fondamentale, les gens veulent être traités en Martiniquais. Ils veulent être considérés comme des Martiniquais. Alors, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours très clair. Mais enfin, c'est un moment vraiment important où les gens ne se pose plus, on ne pose plus simplement le problème de l'égalité des droits, mais le problème du respect des droits des travailleurs. Je crois que c'est extrêmement important.
Alors, cette époque a été marquée donc par deux, on va dire deux assassinats.
Oui, il y a deux assassinats au moins. Voilà, on n'a peut-être pas les preuves formelles, mais enfin deux morts.
Oui, hein, deux morts.
Ilmani et Marie-Louise. Ilmani directement dans la grève. Marie-Louise, on l'a retrouvée un peu plus tard, probablement arrêtée après les manifs, ou dans les manifs. Et puis, bon, tuée bon, à la gendarmerie, ou en tout cas par les forces de répression. Et je crois que mais ces deux morts, c'est pas d'élément véritablement nouveau. Parce qu'en 1971, Lamantin, il y a trois morts. En 1948, au Carbet, il y a trois morts. En 1923, à Bassignac, il y en a également deux. En 1937, il n'y en a pas, mais enfin, probablement une des grèves les plus importantes de la Martinique, c'est la grève de 1935 où les travailleurs agricoles en tenue de travail occupent vraiment la ville de Fort-de-France pendant une dizaine d'heures, pendant plusieurs heures. Il y a eu de grèves plus importantes, la grève de 1900 peut-être, où il y a eu plus de morts. Mais c'est vrai que c'est la dernière grève où il y a eu, à la Martinique en tout cas, la dernière grève où il y a eu vraiment des accidents ou des incidents comme ceux de Chalvet.
D'accord. Et dans cette époque, avant de voir les conséquences, de rentrer dans le détail, vous venez pratiquement d'abandonner le Parti communiste.
Oui, j'ai été exclu du Parti communiste en 71, après les élections municipales de mars 71.
Vous dites exclu, Édouard de Lépine.
Oui, j'ai été exclu en mai 71 du Parti communiste.
Alors, c'était quoi cette raison?
Non, bon, j'avais accepté d'être le candidat du parti en étant, malgré l'opposition du parti, qui m'avait refusé son investiture.
C'était pour le Robert, ça déjà.
Le Robert, oui. Et nous avions peut-être deux candidats particuliers. Un candidat à la Joupa, qui était Édouard Jean-Élie, qui était un ancien communiste également, et un candidat au Robert. Au Robert, nous avions décidé d'expliquer les raisons pour lesquelles le parti ne nous avait pas accordé l'investiture, c'est-à-dire tous les problèmes que nous avions depuis 1968, depuis le 4e congrès du Parti communiste martiniquais en décembre 68. J'avais décidé d'expliquer ça. Et les communistes ont fait semblant de croire que, bon, il s'agissait d'une agression contre le parti. Et non, je voulais simplement expliquer aux camarades, je n'avais absolument pas l'intention de laisser le parti. Et bon, ils m'ont foutu à la porte.
Ça, ils n'ont pas compris, quoi.
Bon, je pense qu'ils ont parfaitement compris, mais enfin bon, ça ne les intéressait pas d'avoir à l'intérieur du parti quelqu'un qui pouvait contrer leur opposition.
Quelqu'un qui pouvait contrer l'opposition ou bien finalement un indépendantiste.
Oui, un indépendantiste. Moi, j'étais indépendantiste.
Parce qu'à l'époque, de ce que je comprends, le Parti communiste n'était pas, indépendantiste.
J'ai affirmé indépendantiste en décembre 1968 au 4e congrès du Parti.
Mais le Parti n'est pas indépendantiste.
Le Parti n'est pas indépendantiste. Mais bon, je ferme ma gueule, hein, je sais pas. Je continuais d'être militant, je ne faisais pas de propagande à l'intérieur du parti. En 1969, quand il y a eu les élections présidentielles de 69 à départ de De Gaulle, je me rappelle avoir collé les 500 affiches que nous avions reçues pour la Martinique, mais moi je croyais que c'était pour Fort-de-France. Et avec mes camarades de ma cellule, on a collé les 500 affiches sur Fort-de-France.
Mais Édouard de Lépine, vous n'avez pas non plus beaucoup de mal à vous réorganiser, puisque finalement vous montez le GRS. Et ce GRS, vous le montez avec qui alors?
Ça commence à prendre du temps, hein, c'est pas évident. Parce que c'est pas facile. On a mis peut-être 2-3 ans peut-être même plus, quoi. C'est-à-dire, le premier congrès du GRS, on va le faire en 74.
Quelle période?
Un petit peu avant, juste après Après Salvé.
Après Salvé, d'accord. Ouais. Mais à l'époque, vous êtes, disons, militant de cette cause que vous... Et vous suivez ce mouvement-là? Vous le suivez à distance? Attendez, Édouard, vous le suivez à distance ou vous êtes dedans?
Non, à partir de juillet 71, c'est-à-dire à partir de mon exclusion du PC en mai 71, bon, j'étais plus au Parti communiste, donc je me suis mis à me battre pour l'indépendance et à expliquer au Robert notamment, au GRS, nous avions une vie politique extrêmement dynamique. Mais bon, nous avons expliqué nos positions sur l'indépendance. Alors, c'était essentiellement des gens qui venaient ou bien de la jeunesse communiste, c'est-à-dire des gens qui avaient été avec moi au PC ou à la jeunesse communiste avant, ou des camarades qui étaient venus de Paris, qui étaient des enfants de mai 68, c'est-à-dire qui avaient fait le mai 68 en France. Et qui était revenu à la Martinique en 69, 70, et bon, qui était d'accord avec l'indépendance, quoi.
D'accord. Donc, vous avez ces amis-là, mais la grève, vous êtes quoi? Vous êtes dans cette grève, vous suivez, ou bien vous faites partie éléments articulant cette grève?
On a un petit journal qui s'appelle Le Travailleur Rouge, qui est un travailleur hebdo, un journal hebdo, un petit journal. Qui prend les luttes ouvrières les unes après les autres, où qu'elles soient. Nous avons notre mot à dire, nous estimons ça, nous allons distribuer devant les entreprises, souvent, bon.
C'est un journal du GRS, ça?
C'est un journal du GRS.
D'accord.
Mais c'est pas le seul journal du GRS, hein. On a créé le Travailleur Rouge, on a créé le Robert En Marche, on a créé le Sud en Lutte, avec un camarade qui est mort, enfin, pas encore un grand écrivain, mais enfin, qui est un écrivain martiniquais, Vincent Placoni, et le Nord en Lutte, également, pour lutter contre Michel Renard, entre autres. On sortait 3 ou 4 feuilles par mois, quoi.
C'est ça. Alors, Édouard de Lépine, c'est important qu'on s'arrête là 2 minutes. Vous savez que moi, je suis un passionné de toutes ces questions de presse.
Oui. Hein.
Vous en êtes aperçu, d'ailleurs. Vous faites, à cette époque-là, vous créez des journaux.
Oui.
Et vous créez des journaux avec ce qu'on appelle, disons, des feuilles. Ce sont des feuilles à trois.
Oui, oui.
Vous avez des vrais journaux qui sont tapés...
Une feuille créée par Agasta.
Oui, on est d'accord, mais enfin, dans ce que vous faites avec le GRS comme ça, vous créez plusieurs journaux, alors qu'aujourd'hui, on voit que les journaux disparaissent. Mais vous en créez. 1971, vous créez 4 journaux.
Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui, parce que d'abord, il faut des militants pour les rédiger, les articles, et puis il faut des militants pour aller les vendre.
Mais qui finance ces journaux? Parce qu'en fait, quand même faire...
Je dois avoir un truc de y compris pour la campagne électorale de 71, de mars 71. Ici, j'ai trouvé une feuille sur la campagne où il y a des gens qui m'ont aidé à préparer cette campagne. Mais les journaux, c'est
la force militante.
C'est la force militante. Et bon, à l'époque, on avait même proposé à une époque de prendre les 40% et de les verser au parti.
Ah bon, carrément.
Oui, de 40%.
Et donc, les titres de ces journaux, c'est quoi? C'est. Rappelez-nous.
Le Travailleur Rouge, qui est pratiquement hebdo. Par exemple, le jeudi soir, c'est Révolution Socialiste, le journal du groupe Révolution Socialiste. C'est le Sud en Lutte, avec Vincent Placoni. C'est le Nord en Lutte, avec un copain de Marigot, me semble-t-il. C'est bon, la jeunesse d'avant-garde, qui est l'organisation de la jeunesse du groupe Révolution Socialiste, si je puis dire. Et on a une demi-douzaine de journaux qu'on va vendre régulièrement.
Et en plus, c'est vendu par les militants.
C'est vendu par les militants, à commencer par moi. Bon.
Donc ça veut dire aussi que les gens sont engagés dans les partis. Les gens sont présents.
Oui, les gens sont présents. Nous avions une quinzaine ou une vingtaine de camarades qui allaient vendre le journal le matin sous la zone industrielle, mais tous les samedis devant les grands marchés, enfin, à l'angle de la rue de la République et, me semble-t-il, du côté de Cégilou-Alexandre et de la rue Lamartine. Partout il y avait une foule devant l'église de
il y a quelqu'un qui vend des journaux.
On vendait tous les dimanches et en tout cas plusieurs fois par semaine. On avait des équipes de type qui allaient vendre le journal. Et pas simplement à Fort-de-France, hein, mais aussi au Marigot. Au Marigot, chez Renard, avec les risques que ça comportait. Bon, ça foutu du bâton, parfois, au Marigot. Mais à Trinité, au Robert, bien entendu, à Rivière-Pilote. On allait partout vendre le journal.
Alors, Édouard de Lépine, on va revenir à l'événement, puisqu'on a resitué un peu le décor. Mmh. Vous avez d'ailleurs réalisé un livre qui s'appelle Chalvet, février 1974. Mmh. C'est un livre donc d'Édouard de Lépine qui précise que vous avez 102 documents pour servir à l'histoire des luttes ouvrières de janvier et février 1974 à la Martinique. Et c'est donc un bouquin que vous avez sorti, juste avec, dans un premier temps, une analyse des différents moments.
Il y a des pages d'analyse de ces grèves-là, des différentes grèves. C'est pas simplement de la grève des ouvriers agricoles, hein, mais en même temps, il y a la grève, les grèves qui ont commencé un petit peu avant. La grève de la SPEDEM, c'est l'électricité, ce qui est devenu plus tard la EDF. De la grève du bâtiment, les grèves des hôpitaux, etc. Toutes les grèves sont analysées là-dedans.
Et quand on lit le journal
d'analyse, oui. Mais il y a 102 documents, il y a environ 244 pages, me semble-t-il, de textes qui sont des documents de la droite et de la gauche, c'est-à-dire aussi bien la vague qui est un journal d'extrême droite, évidemment, violemment contre les grèves. Il y a l'Union, il y a les journaux du PC, le journal du PC, Justice, il y a le journal du PPM, mais il y a tous les journaux des petits groupes, le groupe de l'UPSOA, l'Union populaire de soutien aux ouvriers agricoles.
Vous avez aussi toute l'époque le Naïf.
Il y a aussi des oui, mais en fait, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Naïf.
Non, je dis vous avez aussi des documents liés à cette presse.
Oui, il y a des documents. Le Naïf a beaucoup publié sur ça, aussi bien au moment de la grève qu'après.
Et lorsqu'on lit votre feuille justement de l'époque. Qu'est-ce qui est dit, c'est que toutes les semaines, il n'y a pas un jour sans une grève particulière. Ça veut dire qu'il y a, en Martinique à cette époque, là, 1971 pour arriver jusqu'à 1974, il y a quand même un mouvement extrêmement dur, quoi, c'est-à-dire qu'il y a une lutte sociale.
Il y a des luttes sociales.
Et cette lutte sociale, c'est quoi? Elle est due aux conditions de travail ou elle est due aux conditions du pays?
Difficile, notamment dans la campagne, parce que la crise de la canne, à partir de la fin des années 60, la crise dans l'agriculture d'une manière générale, mais la crise de la banane également à partir de 72-73.
Et vous expliquez ça aussi, vous dites que le travail dans la banane est plus difficile.
Le travail, la banane, bon, on était habitué à des tâches définies essentiellement dans la canne à sucre, 20 piles, 25 paquets, 10 boutons à mettre. Bon, c'est-à-dire, on savait exactement ce qu'on avait. Dans la banane, ça variait un petit peu selon l'état du terrain, bon, enfin, plus ou moins, au plus grand nombre de régimes de bananes, de la plantation à la mise en paquet là-dessus. Enfin, c'était plus difficile à organiser.
Et vous qualifiez cette période d'un climat social lourd.
Oui, c'est très une période vraiment très très difficile. D'autant encore une fois que bon, c'est vrai que c'est le moment où arrive sur le terrain des jeunes gens qui ne sont pas enfin en tout cas qui se disent communistes, mais que nous ne considérons pas comme des marxistes-léninistes, hein, contrairement à ce qu'ils s'appellent marxistes-léninistes, mais en réalité ce sont des groupes maoïstes. Bon, il y en a à Rivière-Pilote, il y en a au François, il y en a dans le Nord. Bon, je les connais bien, parfois ce sont mes anciens élèves.
Oui, alors, Édouard de Lépine, je vais vous demander de répéter cette phrase que vous avez dite. Vous dites, on voit arriver des gens qui se disent, et finalement nous, on les considère pas comme... Expliquez-moi ça, parce que je pense je termine ma question.
Oui.
Je pense que pour nos auditeurs, il faut bien vous écouter sur ce point,
oui.
Parce que c'est peut-être là qu'est née la diversité de la gauche à la Martinique. Parce qu'on peut considérer que dans une certaine mesure, on a une colonne vertébrale qui est la colonne vertébrale des communistes, qui par la suite, avec Césaire, crée son PPM, crée les différents mouvements, mais en 1974, il y a un éclatement qui fait que chacun commence un peu à penser par lui-même. Et vous dites, vous, Édouard de Lépine, vous qui avez l'habitude de toutes ces choses politiques, vous dites, il y a des gens qu'on ne considère pas comme étant...
Non, il y a des gens qui s'estiment maoïstes, qui s'appellent maoïstes, qui s'estiment marxistes-léninistes. Moi, j'appelle les mao locaux, parce que j'espère que... Je crois... À l'époque, que le marxisme, le marxisme est un marxisme très sommaire. Je donne des exemples précis, hein, à tous les coups. Hein. Et d'ailleurs, bon, qui déguise souvent à la fois, pas seulement leur pensée, mais y compris leur habit, qui se balade, qui viennent vêtus comme des travailleurs. Bon, c'est tout juste s'ils ne viennent pas avec. Comme en 1935 avec des sacs de guano, avec bon des trucs comme ça, avec trois trous pour la tête, deux pour les bras.
Des intellectuels habillés en travailleurs, quoi.
Oui, c'est ça. C'est des...
Le look de l'instant.
Voilà, ils se présentent comme ça, bon, je les fois à la fête un petit peu. Quoi.
Oui, et cette partie, vous l'appelez d'ailleurs une interprétation populiste.
Oui, c'est une interprétation populiste, alors peut-être que le terme est exagéré, il ne convient pas exactement, en tout cas, bon. Je dis d'ailleurs dans ce texte, hein, que parfois j'ai été, bon, sinon inutilement dur avec ces jeunes gens. Après tout, en plus, j'ai dit que c'était souvent mes anciens élèves, par conséquent, bon, je les connaissais bien. Bon.
Mais... Édouard de Lépine, est-ce que ce n'est pas justement un petit peu le début de cette espèce de, disons, de ce qu'un certain nombre de groupes ont appelé l'arrogance des grands grecs? Parce que vous êtes un grand grec à l'époque. Vous fréquentez Césaire, vous fréquentez Paris, vous êtes un intellectuel, quoi, disons. Et tous ces...
Ils sont des intellectuels également. Hein. Bon, c'est des gens qui sont profs.
Mais ils n'ont encore rien prouvé. Ils n'ont encore rien écrit. Non, ils sont jeunes, ils arrivent, ils débarquent.
Non plus avant.
Vous n'aviez pas encore écrit de livre depuis, mais vous aviez des études.
Non, j'écris pas de livre. Je passais mon temps à écrire des journaux comme ça.
D'accord.
Révolution socialiste, Travailleurs rouges.
D'accord. Et pourquoi justement, allez, je vais prendre l'expression, pourquoi cette arrogance, Édouard?
Non, l'arrogance, non, c'est comme ça qu'il voit ça. Non, c'est vrai que j'avais peut-être tendance effectivement à considérer comme des gens qui étaient déjà capables de produire une pensée normale, enfin une pensée marxiste à mon avis.
C'était dû à quoi? C'était par rapport au travail que vous aviez fait
Oui, par
vous-même?
rapport au travail,
Ou tout simplement,
par rapport à ce que j'écrivais. Par rapport à ce que j'écrivais, j'ai pris des exemples très concrets dans ce livre. Bon, à plusieurs reprises, je cite des passages absolument incompréhensibles, invraisemblables, de point de vue marxiste.
Il n'empêche que la grève a quand même lieu en février 74.
Oui, non, mais c'est vrai qu'ils ont participé à ces grèves-là, ils ont créé des groupes, ils ont créé, notamment dans le Nord, mais ils ont créé au François, ils ont créé au Robert, ils ont créé à Rivière-Pilote, ils ont créé à Rivière-Salée, oui, me semble-t-il.
Quand vous dites ils ont créé, c'est important aussi qu'on
non,
précise les mots.
C'est les groupes.
Oui,
c'est
tous
les
ces groupes.
Mao.
Oui, absolument. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'ils rentrent dans la vie des travailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils les organisent. Ils ils n'ont peut-être pas la pensée, mais en tout cas, ils ont la volonté, ils ont l'envie, et puis ils sont à l'ouvrage. Ils sont
absolument,
à l'ouvrage.
Absolument.
Ce que d'autres parties, disons, plus
non.
intellectuelles, ne font pas.
Non, non, absolument. Oui, non, c'est vrai. Non, ce sont des bosseurs. C'est pas des plaisantins. Ils font le travail, ils font le travail. Bon, des gens comme, je sais pas moi, des gens que je connais bien, hein, des gens comme Robert Sahé, comme Ludovic Bravo, d'autres personnes, comme.
Léontin est déjà dans la boucle.
Qui c'est?
Madame Léontin, elle était dans la boucle déjà?
Non, non, elle n'était pas là à l'époque, elle n'est pas arrivée, elle est arrivée un petit peu plus tard, vers 75.
Vous parlez de Ferdinand.
Ferdinand, Alex Ferdinand.
Oui.
Qui était, bon, un des meneurs, enfin, des plus importants dirigeants de groupe du Sud.
Et tout ce petit monde travaille et organise les travailleurs.
Et ils organisent les travailleurs, oui, c'est vrai.
Et ils leur permettent de...
Non, ils apprennent des choses, incontestablement. Mais enfin, je ne suis pas sûr que les résultats... Enfin, bon, le résultat, peut-être, il n'est pas mauvais non plus, si vous voulez, du point de vue organisationnel, puisqu'ils vont créer des syndicats qui vont subsister.
Mais Édouard de Lépine, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, et à cet instant en plus, et j'attire l'attention de nos auditeurs pour qu'ils écoutent bien ce que vous dites. C'est qu'à ce moment-là, si je tiens compte de l'articulation de votre analyse, vous faites rentrer une notion qui est pas mal, qui est celle de dire, on fait tout ça, tous ces petits groupes organisent, mais il y a une idée derrière la tête. C'est d'emmener le peuple à l'indépendance.
Oui, bon, effectivement, ils se disent en même temps indépendantistes. Parce que d'un côté, dans leur relation avec les travailleurs, où ils ne parlent très peu de l'indépendance, bon, mais dans leurs ouvrages, ou dans leur publication de leurs ouvrages, ils n'ont pas beaucoup d'ouvrages, mais dans leurs publications, ils prennent position pour l'indépendance.
Avec l'indépendance et la lutte des classes.
Et la lutte des classes, oui.
Et tout ça pour dire, au bout d'un moment, libérons-nous. Donc si je comprends bien, et vous avez aussi parlé de la droite dans ce bouquin, la droite un petit peu réactionnaire,
vraiment,
une position différente. Et il s'agit un petit peu aussi de mater cette petite guérilla naissante, n'est-ce pas?
Oui, non, c'est une droite qui est vraiment une droite de combat, une droite... qui est aussi débile, si je veux dire, du point de vue de la pensée. Hein,
mais est-ce que c'est une droite du patronat, ou est-ce que c'est une droite simplement de la pensée, est-ce que c'est une droite du capital, contre la gauche des ouvriers?
Je ne crois pas. Non, vous savez, ça m'est arrivé de faire des droits d'histoire. Bon. Ça m'est arrivé de téléphoner à RCI, à l'époque, en prenant le nom, en usurpant le nom d'un béquet martiniquais.
Vous avez fait ça, Edouard?
Oui. En disant, qu'est-ce que c'est que ça, vous permettez aux petits voyous de raconter n'importe quoi, etc. Il dit oui, monsieur de Lépine, oui, monsieur de Lépine, etc. Et bon, pas monsieur de Lépine, parce que c'est pas que c'était moi.
Oui.
Après, ils ont su.
Oui.
Ils ont. Bon, en tout cas, bon, ça se passe même beaucoup plus tard que ça. Ça se passe après 80. J'étais pas au PPM, hein, mais c'était après 81 ou 82. Je crois qu'il y avait. Mermaz était ici, Mermaz était un copain de classe, enfin, c'était un condisciple. Nous avons été en Cagne ensemble à la Canade. Et il y avait un type notamment qui était de la même ville, etc. Et je lui ai raconté ça. Et c'était assez marrant d'ailleurs. C'était assez marrant de voir les mecs. Bon, il racontait n'importe quoi.
Alors, on ne voit pas votre sourire, mais vous avez un sourire malicieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un agitateur finalement.
Eh oui, j'étais un agitateur, c'est vrai. Et ouais, j'étais un agitateur, et je me prenais pour un révolutionnaire. Bon. Mais c'est vrai, on se plante vraiment. Moi, j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire, à mon avis, dans une vie de militant, quoi. Et je faisais pas que des conneries, mais enfin, bon. Non, c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes. Il n'y a pas de doute. Pas de doute.
Et aujourd'hui, quand vous analysez tout ça, parce que c'est vrai que l'intérêt, on va pas rentrer dans tout 74, il y a suffisamment d'émissions qui sont réalisées pour raconter à nouveau tout ça. La perspective par rapport à aujourd'hui, parce que c'est un peu la dynamique que nous essayons.
Moi, je crois que bon, je suis de ce point de vue, je pense que c'est l'une des raisons qui m'ont fait entrer au PPM. Moi, je crois que, bon, plutôt que se tourner vers ce qui nous distingue, qui nous sépare, il faut aller vers ce qui peut nous unir, ce qui peut nous permettre de nous retrouver ensemble.
Rappelez-nous à quelle date vous êtes arrivé au PPM.
82, octobre 82.
Mais enfin, vous tirez la conclusion que sur février 74, le bilan est mitigé. Est-ce que dans toute cette bataille, disons, de ces jeunes militants, qu'est-ce que ça a représenté pour vous que cette affaire se soit finalement terminée par deux morts, quoi? Parce qu'il y a eu deux morts.
C'est un truc extrêmement grave, enfin, en tout cas. C'est un truc que j'ai très mal digéré, ce truc-là. Et, bon, il a fallu du temps pour. Non, pas oublier ça, mais enfin, pour en revenir, peut-être en pensant, mais j'ai su ça beaucoup plus tard, hein, des années après, quand j'ai su que Césaire avait été voir les blessés, il y avait deux blessés à l'hôpital, et Césaire leur avait rendu visite dans un de mes jeunes, un de mes anciens élèves, qui avait été blessé à l'époque. Bon. Moi, je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Alors, on revient donc à ce bouquin. Vous avez mis 102 documents, Édouard de Lépine, 102 documents. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez mis comme documents dans...
Oui, tous les documents de tous les partis. D'abord du Parti communiste, bien entendu, du Parti communiste, du Parti progressiste martiniquain, mais aussi de la droite. C'est-à-dire de l'Union, des journaux de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche populiste, mais les journaux français également, aussi bien l'Humanité que l'Humanité Rouge, qui est un journal gauchiste, enfin en tout cas, de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche maoïste. Mais j'ai publié vraiment les documents, les 102 documents, j'ai pas fait... Il y a peut-être...
Vous pouvez nous en donner quelques-uns, parmi ceux qui vous paraissent...
Non, si je les ai mis, c'est qu'ils me paraissent importants. Mais enfin... nous avons publié encore une fois, bon, appel ouvrier agricole de la Martinique, l'explique plus 40%, par exemple. C'était ce que nous voulions à l'époque. Bon, nous disions si, bon pour fonctionner, bon pour travailler. Nous considérions ça comme une revendication normale. Et bon, ce qui n'était pas non plus particulièrement intelligent. Bon, mais bon, il y a peut-être évidemment un peu plus de tract.
Oui. Vous avez des documents qui sont des documents, qui, par exemple, les positions de l'État par rapport à toute cette époque, parce que, bon, l'État, dans une certaine mesure, a soutenu, a maintenu, en tout cas, sa tranquillité oui, politique, sûr, quoi.
Non, l'État fait ce qu'il fait d'ordinaire, bon, quand ça bouge véritablement beaucoup, bon, il faut un geste... Mais il compense ça aussi par un recul sur des problèmes extrêmement importants. Je pense que, bon, vous savez que l'égalité des droits, nous n'avons pas réussi à le faire avant une vingtaine d'années plus tard, en 1996, à l'époque de Chirac. La loi d'assimilation a été votée en 1946, mais l'application intégrale des lois. L'égalité des droits, c'est en 96, c'est-à-dire 50 ans après. C'est une réalité.
Alors, Édouard de Lépine, donc nous avons parlé de ce livre que vous avez réalisé. Il vous a pris combien de temps?
Eh bien, écoutez, moi, en réalité, ce livre, je suis parti, j'ai pris mon congé administratif en 74. Pour pouvoir l'écrire, pour profiter de ça. En réalité, j'ai trouvé aux archives tellement de documents sur les grèves de 35 que j'ai écrit d'abord un bouquin sur la crise de février 35, qui est une grève extrêmement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier français, puisque pour le mouvement ouvrier martiniquais, puisque les ouvriers occupent Fort-de-France pendant plusieurs heures, et que, bon, il faut toute la sagesse, je puis dire, du maire de l'époque, Victor Sévère, pour les faire rentrer, pour les faire...
Je vous promets qu'on reviendra sur ce livre. On va faire aussi une émission spéciale comme on a fait pour Chalvet. Mm. Parce que finalement, on se rend compte que vous avez énormément d'écrits, énormément de documents. Enfin, je veux dire, moi, je suis en train de nager dans tous ces documents, ce qui est fantastique et qui me fait faire un retour dans l'histoire, qui permet peut-être même de se poser des questions sur l'actualité d'aujourd'hui et la façon dont c'est traité. Je vous donne un exemple, et on en discutait, quand je vois tout le travail que vous faites, notamment sur les écritures de ces livres, sur toute la production intellectuelle qui se faisait aujourd'hui, et que maintenant, on se rend compte en définitive que la politique se fait avec des tweets.
Des tweets, oui. Non, c'est lamentable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça lamentable. Je n'y arrive pas à m'y faire. Je n'y arrive pas. Je ne crois pas que j'ai jamais écrit un tweet. Je ne crois pas, non. Honnêtement, ça ne me vient pas. Bon, il y a des mecs qui m'envoient tous les jours. Je ne sais pas, ils me soignent particulièrement, mais enfin, moi, je ne les lis pas d'ailleurs. Mais je reçois tous les jours une bonne vingtaine de tweets, je pense. De 20 camarades différents. Enfin, camarades.
Au sens politique.
Oui. Non, mais c'est vrai que je ne comprends pas très bien. Non, de ce point de vue, je suis vraiment dépassé. Je ne suis pas dans le coup. Je ne suis pas dans le coup. Je ne comprends pas la nouvelle politique. C'est une réalité. Ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi, honnêtement.
Mais vous avez tout de même des recommandations par rapport à ça, parce que vous ne vous arrêtez pas.
Non, non, non.
Je veux dire,
non, très honnêtement, bon, de temps en temps, j'en vois promener un type qui m'envoie un tweet. En disant bon, j'ai rien à foutre de ça, mais honnêtement, tous les jours je reçois peut-être une vingtaine de trucs comme ça que je ne lis pas. Honnêtement, c'est vrai que je suis pas porté sur ça.
Très bien, en tout cas Édouard de Lépine, on vous remercie de nous avoir reçus sur ce livre. Nous reviendrons vous voir, c'est promis. Le prochain
non,
livre.
Ce que je souhaite surtout, c'est que vous publiez quelques passages de ce livre. Voilà. Enfin, il me semble qu'il y a des trucs qui. qui mériterait d'être connu. Quoi.
Ben, vous savez bien, Édouard de Lépine, qu'il n'y a pas de problème, que nous le faisons systématiquement. Dès lors que vous nous envoyez ça sur le blog, nous avons même créé votre propre blog sur notre plateforme numérique. On sait, je vois aussi que très souvent vous y allez, vous la visitez de manière assez régulière. Hein. Je pense que vous voyez aussi qu'on y fait un travail, hein, qu'on essaie tous les jours. Je crois que nous mettons quand même un minimum de 4 articles par jour pour essayer de suivre l'actualité. Mais c'est aussi important pour nous de sortir de cette ambiance de tous les jours, de venir vous rencontrer ici pour découvrir des choses et nous, dans une certaine mesure, nous interpeller. Moi, j'étais très, très heureux aujourd'hui de découvrir à travers ce livre ce qui a peut-être été justement la naissance des différents partis que nous avons aujourd'hui, peut-être même des partis au pouvoir qu'on a aujourd'hui, quoi.
Ok, c'est très bien.
Merci, Édouard de Lépine.
Merci.